On démarre avec les titres du journal.
Les 5 téléskis du domaine skiable d'Isnaud ont trouvé preneur. La société coopérative Diableret Isnaud 360 en est depuis aujourd'hui la propriétaire. On en parle avec son directeur Philippe Gala en ouverture de ce journal. Le cas de harcèlement sexuel présumé par message de la part d'un professeur du collège Saint-Maurice n'est pas unique. L'enseignant aurait déjà écrit à plusieurs jeunes femmes élèves ou anciennes élèves. Il avait affirmé le contraire, a révélé hier soir la RTS. L'application smartphone pour payer son parking va changer dans 6 communes de la Riviera. Exit Park Now, c'est désormais Pay by Phone qui devra être utilisé dès le 1er janvier prochain. Et puis en sport, nous poursuivrons notre série de Noël consacrée aux jeunes athlètes de la région. Et aujourd'hui, c'est le ski alpinisme qui sera à l'honneur avec Caroline Ulrich.
Et côté météo, à part quelques éclaircies encore possibles cet après-midi, on attend un week-end assez mitigé. Le point complet sur la météo après le journal. Le journal de la mi-journée avec Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Les 5 téléskis du domaine skiable d'Isnaud ont un nouveau propriétaire depuis aujourd'hui. Il s'agit de la SCOP, la société coopérative Diableret Isnaud 360. On en parle avec son directeur Philippe Gala. Bonjour.
Bonjour.
Alors, après l'acquisition des bâtiments et des terrains au départ et à l'arrivée de l'ancienne télécabine par la SCOP, c'est au tour maintenant des téléskis. C'est une étape importante, cruciale même dans la réactivation du domaine.
Alors évidemment, c'est une étape très importante, mais c'est aussi la continuité du travail qui avait été entamé il y a 3 ans par le groupe de travail Isnaud 360, qui a donné lieu ensuite à la constitution de la société coopérative Isnaud 360 l'automne passé, qui s'est portée acquéreuse des terrains l'année passée, des bâtiments, et cette année des téléskis.
Alors c'est une étape importante qui a été franchie, vous l'avez dit, mais il reste encore du pain sur la planche en vue d'une réhabilitation totale. Quelle est la suite à donner au projet ?
Alors écoutez, aujourd'hui, effectivement, il s'agissait d'une part de pouvoir sécuriser des actifs importants pour la suite du projet. La suite du projet, évidemment, à la finalité du projet consiste à reconstruire la télécabine et réhabiliter complètement le domaine. Maintenant, on va continuer de travailler dans la continuité de ce qu'on a fait, à savoir, maintenant qu'on a sécurisé les actifs, on a pu ouvrir une buvette pour tester notre business model, qui est, je le rappelle, un laboratoire de tourisme de montagne éco-responsable, 360 degrés et 4 saisons. Donc la buvette nous a permis de démontrer que même en mode dégradé, la buvette était ouverte uniquement en extérieur et on pouvait s'y rendre qu'après avoir fait 30 minutes de marche à pied. On pouvait rentabiliser aussi, ramener de la rentabilité sur ce projet également au travers d'une offre 360 degrés et en particulier sur la restauration par exemple. Donc nous, ces prochains mois, nous allons continuer de travailler pour préparer le projet et être prêt le moment venu quand le plan d'affectation sera prêt, qu'on pourra déposer le projet de reconstruction de la télécabine.
Voilà, vous l'avez dit, hein, les choses s'accélèrent, les choses avancent. C'est donc bon signe pour la région ?
Écoutez, je pense que c'est très bon signe pour la région. On le voit aujourd'hui, les pistes de ski sont toutes ouvertes, les domaines skiables sont ouverts, y compris celui de TVGD, qui nous a beaucoup aidé sur la reprise de ces téléskis. Donc il est important qu'on continue tous à tirer à la même corde pour pouvoir faire avancer les projets de tourisme dans la région, oui.
Eh bien, parfait. Merci Philippe Gala d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la société coopérative Diableret Isnaud 360. Une belle journée, bonne fête à vous.
Merci à vous, joyeuse fête.
De nouvelles révélations dans l'affaire du harcèlement sexuel présumé de la part d'un prof au collège de l'abbaye de Saint-Maurice.
L'enseignant de 52 ans aurait en effet déjà envoyé des messages privés à des élèves ou d'anciennes élèves, a révélé hier soir le bureau valaisan de la RTS, en cause notamment des compliments envoyés via Instagram à des jeunes femmes parfois mineures. Problème, lors de son audition avec le canton, le professeur avait parlé d'un cas isolé, celui de l'étudiante de 16 ans à laquelle il avait écrit durant des mois. Conseiller d'État chargé du département de l'économie et de la formation, Christophe Darbelay revient au micro de Joël Espy sur ses dernières informations.
On a pris note avec beaucoup d'attention de ces nouvelles révélations. Pour nous, ce sont de nouveaux éléments qu'on doit examiner. La procédure suit son cours.
De quelle procédure on parle ?
On parle d'une procédure administrative qui a été ouverte à l'encontre de ce professeur. Dès qu'on a eu connaissance des premiers éléments, c'était un vendredi. Le lundi suivant, on a convoqué le professeur en question et on a invité aussi les parents et l'élève qui avait été victime de ces SMS pour une discussion.
Qu'en est-il du reste des élèves et des professeurs ? Je crois qu'il y a des groupes de discussion, on peut dire, qui ont été mis en place pour qu'ils puissent partager leurs émotions, on va dire, leurs ressentis.
De nos jours, je pense que c'est très important dans une situation comme ça d'ouvrir des espaces de parole. On est dans une phase où les langues se délient, où un certain nombre de choses se disent et elles doivent être dites. Donc on a ouvert un espace de parole important dans le sens où le recteur et l'inspecteur général est allé vers cette classe. Il y a des relations aussi très étroites avec le délégué de la classe, de la personne qui a été victime de ces SMS. Et puis on a aussi ouvert un espace de parole auprès du médiateur et du recteur avec un email dédié pour que les élèves puissent s'exprimer, les professeurs aussi.
Vous devez faire avec des cas similaires, hein, une ou deux fois par année, dans le canton également, hein. Vous avez déjà dû agir.
Alors c'est arrivé depuis mon entrée en fonction une à deux fois par année. Une partie de ces enseignants ont été licenciés sur le champ. On est vraiment dans une situation où je crois que sur plus de 5000 enseignants, ce genre de choses arrive, mais l'important, je crois que c'est d'agir avec beaucoup de célérité, de démontrer une tolérance zéro et une grande fermeté. On va aussi faire de la sensibilisation, non seulement au Collège de Saint-Maurice, mais aussi dans tout le canton, à cette problématique. Je crois qu'on le doit à toutes les personnes qui sont victimes de ce genre de harcèlement.
Quelle est votre position par rapport à la communication, par rapport à ces faits? On a parlé de la pétition qui a été faite par les élèves, on a parlé de la réaction hier des jeunes socialistes. Est-ce que vous communiquez suffisamment, tout simplement, par rapport à ce genre d'affaires?
Je crois que vous pouvez prendre n'importe quel canton suisse et vous n'avez jamais vu un conseil d'État communiquer de manière aussi transparente, aussi claire sur un sujet comme ça. C'est clair, comme magistrat, je suis soumis au secret de fonction. Je ne peux pas tout dire lorsqu'on est en procédure notamment, mais je pense qu'on a créé toute la transparence et on a agi avec beaucoup de rapidité. J'ai, par rapport à mes collaborateurs et collaboratrices qui sont en charge de ce dossier, absolument aucun reproche à formuler.
Toujours d'après la RTS, l'enseignant est actuellement en arrêt maladie. Si ces faits sont avérés, il risque d'être licencié.
Il faudra changer d'application mobile pour payer sa place de parking sur la Riviera.
Au 1er janvier 2022, l'association Sécurité Riviera collaborera avec Pay by Phone, qui remplacera ainsi Park Now. La cause, le contrat liant les deux services arrive à expiration en cette fin d'année. Les explications sur le fonctionnement de la nouvelle application avec Sébastien Piou. Il est le directeur administratif de l'association Sécurité Riviera.
Ce ne sera pas plus compliqué en tout cas que le précédent système qui était proposé par ParkNow. Donc l'automobiliste sélectionne la zone de stationnement, la durée et puis valide le paiement. Et avant de regagner son véhicule, il confirme toujours dans l'application la fin du stationnement. Donc le montant effectif, vraiment réel de la durée du stationnement est débité sur une carte de crédit et un reçu lui est ensuite envoyé par email. Pour éviter même les oublis, des notifications peuvent être automatiquement activées et envoyées par l'application peu avant le terme du stationnement.
Une application qui permettra ainsi de rapidement payer sa place de parc sans devoir faire des allers-retours entre la voiture et le rodateur. Il n'est cependant pas prévu que les parcs-mètres disparaissent. Sébastien Piou.
Le remplacement est en tout cas pas prévu dans l'immédiat, dans notre région, en tout cas même pas à terme, hein, parce que les deux systèmes vont continuer à coexister à tout le moins durant plusieurs années. Par contre, effectivement, si l'on tient compte de l'évolution actuelle où on va vers une société du tout numérique, si j'ose dire, il n'est pas exclu qu'à plus long terme le paiement du stationnement, mais peut-être aussi comme le paiement d'autres prestations de la vie de tous les jours, hein, au moyen de monnaie, puisse effectivement disparaître un jour. C'est une tendance qu'on constate dans d'autres pays, hein, si je prends l'exemple du Royaume-Uni, où dans certaines régions en tout cas, il n'est possible de payer son stationnement que par le biais d'une application numérique à ce moment-là. La tendance est peut-être celle-là. Mais en tout cas, pour la Riviera et en ce qui nous concerne, les deux systèmes vont continuer à coexister.
La mise en place du nouveau système interviendra progressivement jusqu'au 10 janvier 2022 dans les communes de Blenay-Saint-Légier, Corzeau, Corzier-sur-Vevey, La Tour-de-Paix, Montreux et Vevey. C'était un sujet préparé par Thierry Nicolet. Aigle demande 8 millions de francs pour l'assainissement, la rénovation et l'agrandissement de l'hôtel de ville. Ce crédit supplémentaire a été sollicité par la municipalité par un préavis à caractère d'urgence à la suite de résultats d'études et d'analyses relatives aux travaux de rénovation du bâtiment. Ils ont ainsi démontré que le parking doit être assaini et l'annexe de l'hôtel de ville devra être surélevée afin de gagner de la place au sein de l'édifice pour l'office des poursuites.
Et cadeau de Noël avant l'heure pour les enfants de la fondation La Chaloupe.
Ces mineurs qui connaissent une situation familiale, sociale ou personnelle compliquée seront tous réunis sur le même site à Colombey-le-Grand. Un nouveau bâtiment a en effet été construit pour accueillir les jeunes de moins de 12 ans, à côté de celui réservé aux adolescents. Exit donc les anciens locaux situés à proximité du monastère des Bernardines, au centre de Colombey. Patrick Suer est le directeur de La Chaloupe. Il nous explique les raisons qui ont poussé l'institution à quitter ce bâtiment.
Ils répondaient plus aux besoins en termes de normes, notamment sismiques. Ils répondaient plus non plus en termes d'efficience au niveau éducatif, puisqu'on était sur 4 étages. Et en termes de sécurité, c'était pas idéal non plus, puisqu'à côté justement de la route cantonale, de la OMC. Et puis, c'était important de pouvoir privilégier un emplacement plus au cœur de la nature.
Et cet emplacement sera en effet bien plus propice à l'épanouissement des enfants. Patrick Suard.
Ce sont des chambres qui sont individuelles. Ça, ils ont vraiment des espaces d'intimité qui leur sont attribués, qui peuvent à leur goût aussi décorer, aménager. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est un plus, qui est important. Et puis, tous les espaces communs aussi sont adaptés, sont spacieux. C'est vrai que dans les anciens locaux, sur 4 étages, ça présentait quelques difficultés au niveau des espaces, la promiscuité. Là, ils ont des locaux qui sont ouverts, lumineux, en lien avec l'environnement extérieur. Ça leur permet de voir le paysan avec sa ferme, les vaches, les moutons, différents animaux qui sont autour du site. Donc, un environnement tout à fait propice et les enfants sont extrêmement content de cette arrivée.
Coût de ce nouveau bâtiment, 3,3 millions de francs, un montant qui est pris en charge par l'Office fédéral de la justice, l'État du Valais et la Loterie romande. Une inauguration officielle sera donnée le 21 juin 2022, année des 20 ans de la fondation. C'était un sujet de Thierry Nicolet.
Passer d'un tronc suspendu à un autre, glisser avec une tyrolienne ou mesurer son équilibre.
Des activités typiques des parcours d'acrobranche dont plusieurs existent dans la région. Le parc de Champoussin, Point Sud, proposera de nouveaux parcours dès le printemps prochain. Son directeur Yanis Anker a voulu trouver des idées originales avec des vélos ou du karting dans les arbres. Écoutez-le.
Je pense que c'est plutôt une idée, une envie, et puis je pense de sortir un petit peu des sentiers battus, ça veut dire faire des proposer des activités qui n'existent pas. C'est un petit peu dans mon but de recherche, et puis pour attirer quand même une nouvelle clientèle et faire revenir aussi les gens pour faire redécouvrir des nouvelles activités.
Et justement, revenir les gens parce que les 2 dernières années en lien avec le Covid n'ont pas été simples.
Non, ça fait 2 années que les groupes ne viennent plus, donc soit annulés, soit ils n'ont pas réservé. Donc c'est vrai que c'est 2 années compliquées, donc je pense qu'il faut essayer de toucher aussi une clientèle plus privée et sans compter sur que les groupes, quoi.
Et puis, vous n'êtes pas le seul parc aventure dans la vallée d'Illier, mais c'est pas vraiment une concurrence, vous êtes plutôt complémentaire. Enfin voilà, il y a un public en été avec les touristes, entre autres, et normalement les groupes qui sont assez amateurs de grimper aux arbres.
Oui, mais comme je discutais auparavant avec certains qui ont des activités un petit peu style les salles d'escalade ou les trucs comme ça, donc c'est complémentaire. Parce que généralement, les gens, ils tournent, ils font le parc là, parce qu'on propose pas les mêmes activités. Donc pour moi, c'est plutôt, on va dire, un bien d'avoir plein d'activités différentes dans la région.
Yanis Anker répondait à Valérie Blom. Parmi les projets futurs du gérant de l'acrobranche de Champoussin figure notamment le concept d'un parcours pour personnes en situation de handicap. Informations sur l'ouverture et sur les réservations possibles sur le site point-sud.ch. La pandémie de Covid-19 a un fort impact sur le trafic aérien. Pour Noël, Genève Aéroport s'attend donc à voir passer moitié moins de passagers qu'en 2019. Dimanche, qui sera la journée la plus importante de la période, 33 000 passagers seront pris en charge. Mais c'est moitié moins que le trafic normal d'avant la pandémie, a indiqué aujourd'hui le porte-parole de Genève Aéroport, interrogé par Keystone ATS. Les soldats qui entrent en service en janvier devront présenter un test PCR ou antigénique négatif avant le début de l'école de recrue. En raison de la pandémie de Covid-19, les congés et les sorties sont annulés durant au moins tout le mois. L'armée veut ainsi éviter une transmission du virus entre les civils et les militaires. Ces mesures de protection s'appliquent pour 11 200 recrues et 2 500 cadres. Le coût du test sera remboursé par l'armée, précise celle-ci dans un communiqué diffusé aujourd'hui. Et puis une bonne nouvelle de Noël. En France, plusieurs communes françaises, à l'instar de Saint-Genis-Laval, près de Lyon, ont pris des arrêtés très particuliers cette semaine. Les autorités ont en effet décidé d'autoriser le survol de leur territoire par le Père Noël, ainsi que la circulation sur les toits.
C'est trop beau, c'est beau, joli, hein. Mais
c'est mignon.
Oui, c'est mignon. Il y a des jolies choses quand même en fin d'année.
Mais quand même. Puis on peut d'ailleurs lire sur le Twitter du maire de la dite commune, considérant l'absolue nécessité pour les enfants de la distribution des cadeaux, le Père Père Noël est en droit de survoler librement l'ensemble du territoire saint-génois dans la nuit du 24 au 25 décembre, à la seule condition que les enfants soient endormis.
Ah ben ça, ça fait plaisir.
Et le livreur de cadeaux est également autorisé à faire paître ses rennes dans un parc de la ville. Et le maire encourage également les enfants à préparer une collation chaude de préférence pour l'homme en rouge. C'est trop mignon.
Mais c'est trop mignon, je suis aussi preneur pour la collation, s'il vous plaît.
c'est entendu. On passe en Asie, des sculptures de deux universités hongkongaises commémorant le mouvement pro-démocratie de Tiananmen ont été déboulonnées aujourd'hui, ont annoncé les institutions. Elles poursuivent ainsi l'effacement dans la ville des hommages à la répression sanglante du 4 juin 1989 à Pékin. On passe au sport. En hockey sur glace, la pause des fêtes va faire du bien à Lausanne. En déplacement hier soir à Lugano, les Vaudois ont concédé une troisième défaite d'affilée. S'ils n'ont pas démérité durant la première moitié de la rencontre, les Vaudois ont à nouveau manqué d'efficacité devant le but adverse. Au contraire des Tessinois qui ont su exploiter leurs opportunités pour l'emporter 5-1. Après cette ultime défaite de l'année, les Lausannois se retrouvent englués à la 9e place du classement avec seulement 4 points d'avance sur Ambri Piotta, 11e. De son côté, Genève Servette a en revanche réussi un carton sur la glace de Zoug. Les Aigles, qui sortaient de leur quarantaine préventive, sont allés gagner 5-1 en Suisse centrale. Et enfin, le HC Ajoie a encore perdu. Les Jurassiens se sont inclinés 2-1 devant le HC Davos.
Ok, sur glace encore, Genève Servette a trouvé une solution pour pallier son problème de gardien.
Privé des services de son portier titulaire, Gauthier Desclous, blessé au bas du corps, les dirigeants genevois ont réagi. Ils ont obtenu le prêt jusqu'au 10 janvier de Connor Hughes en provenance de Fribourg-Gotteron. Cette transaction est assortie d'une option de prolongation jusqu'au 30 janvier. Le gardien de 25 ans formera un duo avec Dominique Niffeler, prêté par Kloten. Et puis de son côté, le HC Bienne s'est attaché les services de Jesper Olofsson pour les deux prochaines saisons. Le meilleur compteur de National League va ainsi quitter Langnau pour rejoindre le Zélande.
Et place maintenant à notre série de Noël et aujourd'hui, honneur au ski alpinisme avec Caroline Ulrich.
L'athlète de la Tour de Paix a entamé son dernier hiver dans la catégorie U20. Les choses sérieuses ont d'ailleurs déjà repris sur le front de la Coupe du Monde. La skieuse de la Riviera a terminé deuxième lors de la verticale à Ponte di Legno. Et alors que la saison bat déjà son plein pour la vaudoise de 19 ans, le mois de décembre est aussi marqué par les fêtes de fin d'année, une période où l'on se rassemble en famille autour de copieux repas de Noël. Et c'est aussi l'heure de se projeter vers 2022 avec la traditionnelle question des résolutions. Écoutez à ce sujet la réponse de Caroline Ulrich.
Alors, des bonnes résolutions, pour moi je pense que ça serait m'améliorer au point de vue personnel, dans par exemple ma discipline, à allier sport et études, ou bien mieux ranger ma chambre, enfin tous des trucs je pense que tout le monde a dans sa tête. Et puis après, au plan sportif, aussi m'améliorer et puis continuer à prendre du plaisir.
Parce que vous êtes étudiante en biologie, hein, si je ne me trompe pas, à l'université de Lausanne.
Exactement.
Comment vous conciliez les deux? Notamment, on sait que sur les fêtes de fin d'année, en tout cas sur les fins d'année scolaires, ça peut être chargé sur le plan estudiantin. Comment ça se passe?
Ce qui est bien pour moi, c'est que je suis à temps partiel, donc je fais ma première année en 2 ans. Donc j'ai moins de cours que les autres étudiants. Et puis on a la chance aussi, grâce au Covid, c'est un peu le revers de la médaille, on a les cours qui sont enregistrés, donc pour les cours d'entraînement par exemple, je peux les revoir après, les enregistrements des cours justement. Et puis après, le point un peu plus embêtant, c'est que j'ai les examens, justement, la période des examens janvier-février, donc c'est en plein les premières Coupes du Monde aussi. Ça, j'ai la chance avec l'Université de Lausanne d'avoir le statut de sportif d'élite et ça me permet de déplacer mes examens en août. Ça me laisse aussi une liberté pour m'arranger et puis pour vraiment allier sport et études de la meilleure des manières.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Et après avoir retrouvé la Coupe du Monde en signant une deuxième place à Ponte di Legno lors de la verticale, Caroline Ulrich aura rendez-vous en Andorre le 15 janvier prochain.
Merci Léa. Du coup, bonne fête, bonne année,
oui,
joyeux Noël, tout
joyeux
ce que vous
Noël,
voulez.
Noyeux Joël et tout ce qui va avec.
Ah, noyeux Joël.
Voilà.
Et on va pas le dire la suite. En... Non, c'est vaut mieux pas. Du coup, à l'année prochaine, bonne fête.
À l'année prochaine.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec les mines de sel de Baie, ses visites et sa boutique de cadeaux salés et du terroir, mines.ch.
On finit la semaine sous les nuages, même si quelques éclaircies sont possibles cet après-midi dans la plaine du Chablais. Côté température, Météo Suisse nous indique au maximum 6 en plaine, 4 à 1000 mètres et 4 à 2000. Pour ce week-end, le samedi va se faire sous les nuages avec de faibles précipitations et une limite plus neige aux alentours des 1800 mètres. Enfin, dimanche, le temps s'annonce encore nuageux avec des précipitations plus soutenues sur les reliefs et même localement importantes sur les portes du soleil. La limite plus neige devrait s'abaisser vers 1400 mètres avec 5 à 15 de neige fraîche au-dessus. Pour les températures, on oscillera entre 3 et 8 degrés en pleine ce week-end, entre 2 et 4 à 1000 mètres et entre 0 et 2 à 2000.